Voilà, à l'heure où je vous parle là, j'ai mon père qui se trouve à 555 km de Conakry. Il est marchand, cultivateur et éleveur de petits ruminants. Ma mère potagère et également marchande. D'où je viens, il n'y a pas de banque. Mes parents ont des difficultés à utiliser les téléphones, à plus forte raison les smartphones. Les habitants des campagnes environnantes vivent dans de pires conditions. Et certains ne savent pas c'est quoi une banque, à plus forte raison un financement bancaire ou encore une numérisation de leur activité. Il y a des moyens de mobile banking qui ne couvrent qu'une petite partie de la population, quelque chose de 3 millions d'utilisateurs de compte Orange Money, alors que la population guinéenne est quelque chose de 13,72 millions d'habitants. Alors, comment pensez-vous qu'elle soit possible, cette inclusion, dans de telles conditions? Comment pensez-vous que le projet de numérisation de l'économie soit faisable? Bref, comment faire face à tous ces obstacles?
Sept milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Reportage aujourd'hui sur l'épargne et la banque en Guinée-Conakry. 23% des Guinéens possèdent un compte bancaire. Un chiffre qui a plus que triplé en 5 ans selon la Banque mondiale. Mais un élan modeste comparé aux voisins sénégalais qui totalisent près de 43% de détenteurs de comptes bancaires. Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Emmanuel.
Votre reportage a été tourné avant la déflagration du Covid-19. La pandémie plonge le continent bien sûr dans sa première récession depuis 25 ans. Et c'est vrai que dans un pays comme la Guinée, les prévisions tablent sur un recul de la croissance, sur des difficultés aussi pour les populations de faire face à la crise avec peu d'épargne. Le problème de l'inclusion financière reste en tout cas un sujet incontournable pour stimuler la création d'emplois et lutter contre la pauvreté.
Oui, en effet, la Banque centrale de la République de Guinée a réuni il y a quelques mois des spécialistes à l'occasion des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière, le DIAFIN. Avec des représentants des banques centrales, de la Tanzanie, du Liberia ou du Ghana par exemple, et de la BCEAO, mais aussi des institutions comme la Banque africaine de développement ou le programme des Nations unies pour le développement, et enfin des dirigeants d'entreprises locaux des secteurs financiers, de la monnaie électronique, de l'industrie ou encore de l'agriculture.
Alors, comment vivre sans compte en banque? Quelle stratégie publique en Guinée pour inclure toutes les couches de la population? Comment prendre en compte finalement le mode de vie des habitants visés par cette bancarisation?
Alors réponse avec Mohamed, chauffeur de taxi. Il est à peine 9h à Conakry quand je monte dans son taxi jaune.
Mohamed, on est dans votre taxi?
Mais c'est une Renault 19.
Une Renault 19?
Oui.
Et dites-moi, ça fait combien de temps que vous conduisez ce taxi?
Ça fait à peu près 30 ans. Hein.
30 ans mmh. À Conakry?
À Conakry ici, oui.
Et ça va comment?
Ah, ça va un peu. Ça m'a rapporté beaucoup de choses. J'ai nourri ma famille avec ça.
Et vous gagnez à peu près combien par jour avec les courses de taxi?
Des fois, on peut gagner 50 000, des fois 100 000, des fois plus.
Et comment vous faites avec tout ce cash à la fin de la journée ou à la fin du mois?
Je mets dans ma poche. Je ne casse pas aucun endroit. Quand j'ai besoin de faire un travail, je prends mon argent, je fais mes affaires.
Vous mettez pas ça à la banque?
Non, je n'ai jamais mis mon argent à la banque.
Pourquoi?
Parce que je préfère le garder à mon niveau. Parce que quand j'ai besoin, je prends, j'utilise. Je garde ça à la maison, c'est moi.
Et vous n'avez pas peur?
Ah, j'ai pas perdu. Parce que j'ai pas de problème de vol avec ma famille.
Et quand il y a des inondations pendant la saison des pluies, par exemple, ça peut être un risque de perdre l'épargne.
Ça, j'ai pas à dire.
Et alors, comment vous faites dans la vie quotidienne? Tout est en liquide?
Tout est en liquide. La dépense, je donne l'argent liquide à ma femme. Elle va faire. Payer la dépense.
Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une banque?
Non, 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 non. Je n'ai pas essayé de voir les banques.
Et pourquoi?
Ça ne m'intéresse pas, c'est pour cela.
Qu'est-ce que vous voudriez dire aux banques aujourd'hui?
Créer la confiance entre avec la population.
Merci monsieur.
Okay, merci.
Bonne journée. Bonjour.
Bonjour. Coordinatrice de la Guinée des terroirs. La Guinée des terroirs est une entreprise coopérative fondée dans le but de transformer les produits agricoles par les femmes pour permettre leur autonomisation. L'agriculture et la transformation agroalimentaire constituent les activités principales des femmes rurales en République de Guinée.
Alors, on vient d'arriver dans l'unité de travail de la Guinée des terroirs. C'est un espace avec un hangar, on voit plusieurs containers.
Oui, c'est un magasin, des magasins de l'État. C'est des entrepôts pour garder les machines, des machines de transformation, des machines agricoles. Mais nous, nous avons pris ce magasin-là dans le but de conserver le fonio. Parce que le président de la République a acheté 200 tonnes de fonio pour encourager les femmes à bénéficier un revenu à partir des activités qu'elles savent faire. Il a proposé l'activité de transformation du fonio contre votre force du travail, contre votre savoir-faire. Vous transformez le fonio et vous donne 3000 francs par kilo de fonio. Donc vous avez fait 100 kilos, vous avez tout de suite 300 000 francs. Donc les 300 000 francs vous permettent donc de garder peut-être un minimum de 50 000 francs dans une banque pour une épargne et vous utilisez les 250 000 francs. Si vous voulez amener les gens à l'inclusion financière, il faut d'abord soutenir leur activité parce que c'est le soutien à l'activité qui permet d'épargner. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas épargner? N'exclut des finances que des personnes dans la vulnérabilité profonde, extrême, excessive, qui n'ont rien.
On parle notamment des femmes, des petits commerces sur le marché, par exemple.
Sur le marché, par exemple. Toutes celles que vous voyez là, il y en a qui faisaient le commerce du pain. Il y en a qui étaient des concasseuses de cailloux. Elles ne savent pas lire et écrire, mais elles savent ce que c'est que le capital, n'est-ce pas? Le prix de vente, le prix de revenus et l'épargne. Elles savent le faire.
En avance, vous pouvez me faire visiter?
Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le moulin pour blanchir le fonio. Ça, c'est une laveuse de fonio.
Il y a des grandes bassines.
Il y a des grandes
d'eau.
Bassines pour laver, il y a des seaux pour laver, il y a des calebasses. Vous allez voir ça là-bas. Avec les
Donc femmes. Ça, ça se fait à la main?
Le travail du fonio est essentiellement à la main.
Je vais aller voir les femmes.
Elle, par exemple, elle a fini de laver. Elle va l'étiver et mettre le fonio au soleil et faire sécher. C'est la dernière étape.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous vous appelez comment?
Bébé.
Et
toi, je m'appelle Bébé Malamba Condé.
Et vous venez d'où?
Anta. Je viens du quartier Anta.
Et ça fait combien de temps que vous venez travailler ici, dans cette unité de transformation du fonio?
Ça fait 2 ans que je travaille ici. Je suis en état de séparation avec mon mari et les enfants sont partagés. Je suis venue travailler ici d'abord par amour du produit du fonio, qui est une céréale de chez moi. Et deuxièmement, j'ai vu que c'est un travail un peu spécifique et innovant, qui n'a jamais été soutenu. Quand je suis arrivée ici, je n'avais rien comme ressources financières, donc j'étais à la recherche de moyens pour pouvoir entreprendre. Et donc, quand je suis venue, j'ai commencé à faire le travail du fonio. Ça m'a donné beaucoup de bénéfices en termes social, économique et même de statut, parce qu'actuellement, grâce à mon travail ici, j'habille mes enfants, je les nourris, je paye l'école et je subviens à mes propres besoins. Je gagne de l'argent dignement.
Et justement, vous gagnez combien ?
Une tonne, c'est 3 millions. C'est au prorata des efforts. Parfois, je fais une tonne, parfois 2 tonnes.
Le dernier paiement, elle a fait 1,5 tonne. Donc, ça l'a donné 4 500 000. Et on va lui donner les 1 500 000 après.
Et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Est-ce que vous arrivez à l'épargner? Ou est-ce que vous le placez dans une banque, par exemple?
Mm-hmm.
comme il y a un transport.
Je dois assurer mon transport pour venir ici et puis j'assure aussi les besoins de mes enfants.
Elle dit qu'elle n'a pas une grosse somme pour les banques, premièrement. Et les banques posent des conditions qu'elle ne peut pas remplir, elle ne connaît même pas. Parce que tout ce qu'elles font, elles l'épargnent, mais elles n'épargnent pas dans une banque. Voilà un modèle d'inclusion financière. Mais écoutez, c'est d'abord, elle est partie d'une activité qu'elle a menée, qui a été soutenue à la base par nous-mêmes. Donc pour moi, l'inclusion financière, c'est aussi pouvoir exercer, démarrer une activité.
Je suis Maladou Kaba, je suis l'ancienne ministre de l'économie et des finances de la République de Guinée où j'ai servi de 2016 à 2018. Quand on regarde sur les 10 dernières années, je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu une tendance à l'amélioration au niveau global pour notre pays. Nous avons un des taux de croissance économique parmi les plus robustes dans la sous-région. Bien entendu, la question qui, je crois, se pose pour tous les pays du monde, c'est que la croissance doit être inclusive. Quel est le retour aujourd'hui de manière concrète pour nos concitoyennes et nos concitoyens? Ça, c'est véritablement le point qui se pose à nous. Ça interroge le rôle du secteur public qui, à mon sens, peut être un facteur important d'exclusion ou d'inclusion s'il ne travaille pas pour le plus grand nombre, s'il se contente de servir, je dirais, les happy few, ceux qui sont proches du pouvoir. Et c'est pour ça que la question de la gouvernance, la question d'amélioration de la manière dont fonctionnent nos administrations publiques, c'est fondamental pour pouvoir permettre cette inclusion. Alors aujourd'hui, donc, c'est vrai que les questions auxquelles on assiste, elles sont liées à l'inclusion financière, donc c'est un des éléments d'inclusion.
L'intégration, en fait, des populations dans le système économique.
Absolument. L'inclusion financière permet aux couches vulnérables, donc notamment les femmes et les jeunes, en particulier en milieu rural, l'inclusion financière est un élément qui permet de les introduire dans le circuit économique formel. Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils puissent échanger des biens et services contre de l'argent, qu'ils puissent avoir accès à des services financiers à coût abordable, ça c'est important, et qu'ils soient efficaces pour eux. Et donc aujourd'hui, il est vrai qu'on a un atout incroyable, qui n'existait pas il y a plusieurs décennies, c'est bien entendu les technologies de l'information, l'économie numérique. Et là, on sait que l'Afrique mène de par le monde. Hein. La téléphonie mobile est en pleine croissance. À l'horizon 2030, on aura à peu près 70% des populations qui auront accès à la téléphonie mobile. Ça, c'est véritablement un moyen qui permet aujourd'hui de lever les contraintes d'un système bancaire qui reste encore un peu lourd.
Alors justement, quel accès à la banque et aux services financiers aujourd'hui en Guinée et pour qui?
Le taux de bancarisation aujourd'hui en Guinée tourne autour d'à peu près entre 15 et 20%. Donc ça montre à quel point il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce que la bancarisation nécessite qu'on ait des revenus. Il y a un minimum qu'on doit pouvoir déposer. Vous imaginez bien que la personne qui se trouve, je ne sais pas moi, à Yomou, dans un village partout en Guinée, n'a pas cette capacité-là. La plupart du temps, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas non plus la source des revenus qu'ils ont est beaucoup trop faible pour pouvoir leur permettre d'ouvrir un compte et donc d'y effectuer un certain nombre d'opérations. L'objectif, c'est qu'on puisse également permettre que les populations épargnent aussi et puissent accéder à des prêts. Et pour ça, ça nécessite qu'on puisse localiser aussi physiquement les gens. D'ailleurs, en Guinée, le Premier ministre a récemment lancé la campagne d'identification des couches vulnérables. Et donc, tous ces éléments-là vont concourir à développer et en tout cas accroître l'inclusion financière de nos populations, notamment en milieu rural.
Alors, on a entendu, Raphaël Constant, la difficulté de constituer de l'épargne pour certaines couches de la population. Où en est cette campagne d'identification des personnes vulnérables qui a été lancée l'année dernière?
Alors, d'après l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, la campagne a déjà permis d'identifier plus d'1,5 million de Guinéens parmi les 40% les plus pauvres. Et à terme, l'agence estime créer une base de plus de 6 millions de personnes vulnérables, c'est-à-dire près de la moitié de la population guinéenne.
Et qu'est-ce qu'on propose à ces personnes du mobile banking?
banking.
Alors tout à fait, et 10 ans après le lancement de M-Pesa au Kenya, l'utilisation de la monnaie mobile fait partie intégrante du quotidien de millions d'Africains. En Guinée, plusieurs sociétés ont mis en place des services de mobile banking. Le géant Orange Money bien sûr, mais on peut aussi citer MTN, Ecobank ou Celcom Guinée qui a lancé en 2019 une plateforme monétique pour faire des dépôts et des retraits d'argent, acheter du forfait internet Celcom, souscrire à une assurance et autres services du mobile marketing.
Est-ce que la monnaie numérique s'est vraiment démocratisée en Guinée ?
Alors démocratisée, oui, mais il faut prendre en compte la qualité du réseau de la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire et l'accès à internet. Or, Emmanuel, le taux d'accès à internet en Guinée est l'un des plus bas d'Afrique, même s'il est passé de 0,4% en 2010 à 33% en 2018. Alors si le mobile banking transforme bel et bien l'épargne et l'activité bancaire, on constate encore une réelle préférence pour l'argent liquide. Et Madame Ndia, secrétaire exécutive de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen, nous explique pourquoi.
Aujourd'hui, les plus gros opérateurs de ce pays, ce sont des commerçants. Ce n'est pas les industriels, ce n'est pas les miniers, c'est les commerçants. Parce qu'on importe pratiquement tout. Si l'État guinéen devait lever aujourd'hui 800 millions de dollars là, il ne les trouve pas. Vous allez au marché de Madina, qui est le grand marché de Conakry, vous trouvez 800 millions de dollars en quelques heures.
Donc il y a énormément de liquidités qui circulent dans le pays, dans la ville ?
Énormément. Vous avez des coffres-forts un peu partout dans la ville, dans les bureaux. Tous les gens qui gagnent un peu d'argent, ils achètent un coffre-fort, ils mettent de l'argent, que ce soit des devises d'ailleurs ou des francs guinéens.
Et il y a d'autres facteurs qui contribuent à cette non-bancarisation, c'est l'éloignement et le peu d'instituts bancaires, mais aussi les frais de service, les frais de tenue de compte et une espèce de crainte également de la banque.
Mais oui, les gens se sont fait avoir avec les banques parce qu'ils n'ont pas mesuré le risque. Mais pourquoi ? Parce qu'en général, le banquier a minimisé le risque. Alors vous vous retrouvez avec des drames familiaux. Par exemple, vous avez des gens qui ont hypothéqué leur maison avec des phrases du banquier « mais ça ne va jamais arriver, vous n'arriverez jamais à ça » et puis qui ont perdu leur maison. Donc bon, il y a quand même un passif de confiance entre le client guinéen et la banque des deux côtés, hein, parce que, vous savez, l'histoire est têtue. Donc les gens ont toujours retenu qu'il y a eu à un moment donné des problèmes en Guinée avec les banques. Les gens n'ont pas eu accès à leur argent. Ça, c'était la Première République. La Deuxième République, on a changé la monnaie du jour au lendemain, en pleine nuit, sur décision unilatérale du président de la République. Le président Conté, un militaire, lui, tout ça, il a trouvé que c'était vraiment trop long. Il est rentré à la télévision. Il a dit, ce soir à minuit, un Sili égale un franc guinéen, allez changer votre argent demain. Boum ! Résultat, tous les gens qui avaient de l'argent, entre guillemets, non déclaré, ça a été la course à trouver les prête-noms, les trucs, etc., pour pouvoir récupérer l'argent. Donc une fois qu'ils ont récupéré l'argent au niveau des banques, inutile de vous dire qu'ils les ont ramenés directement dans les coffres, à la maison, au bureau. Et donc c'est resté dans l'inconscient collectif, il est resté que, oh, l'argent à la banque, c'est pas sûr. Mieux vaut que ce soit à la maison, au moins, s'il y a un problème, on a l'argent.
On est ici dans un centre commercial au marché Madina, qui est le gros marché populaire de Conakry.
Le plus grand marché de Conakry, le poumon économique du monde informel de la Guinée. Hein.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Diallo Abdoulhamid, comptable du centre commercial Falolay, 6 ans Madina.
Alors comment c'est géré justement tout ce cash, toutes ces liquidités qui circulent dans le marché ?
Vous savez, ici, on n'a pas des cartes de crédit. C'est très rare de voir quelqu'un qui paye par chèque. Pour une question de prudence et de confiance, les gens préfèrent travailler main à main avec la liquidité. C'est comme ça que ça se passe ici. Il y a des risques, hein, parce que tu prends les risques d'avoir un coffre dans ton magasin, tu gardes par devers toi l'argent et le soir, par malchance, quelqu'un vient dévaliser le magasin, ben, il prend tout. Et ça se passe presque toutes les semaines ici. Les bandits viennent, ils dévalisent, ils prennent les coffres. Ça ne manque pas ici. Et les incendies aussi.
Il y a combien de commerçants sur ce marché à Madina ?
C'est des centaines de milliers. Hein. Le marché de Madina maintenant, il s'étend de Kolea jusqu'à Bonfi. Et ça, c'est sur une rayon de 5 à 6 km et d'une largeur près de 3 à 4 km. Ici, vous avez la route du Niger.
Avec tous les parasols le long de la route et les stands.
Complètement envahi par les commerçants, les débrouillards. Et au fond, vous avez le centre qu'on appelle le centre Madame Marie, un immeuble rose et tôle verte.
Donc on se rend compte à quel point il y a marchandises et liquidités qui doivent circuler dans un marché comme celui-ci.
C'est une question de milliards par jour. Vous venez à des endroits, il y a des cambistes qui ne travaillent qu'avec la liquidité. Il y a des vendeurs d'appareils électroniques, il y a des vendeurs d'alimentation et puis il y a des vendeurs de médicaments. Ben, c'est une question de milliards par jour. Ça, c'est incontestable.
Alors justement, est-ce que l'économie informelle, elle nourrit la non-bancarisation?
Oui, mais vous savez, quand par exemple vous prenez un étudiant qui finit ses études, il est obligé de se rapatrier vers là où trouver une source de revenus. Il faut qu'il survive. Hein. Lui, à cet instant, ce n'est pas le problème de bancarisation mais la création d'un compte bancaire qui l'intéresse. C'est comment nourrir sa famille, comment subvenir à ses besoins. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est la liquidité, d'avoir la liquidité de part de vers lui. Le reste a peu d'importance et a peu d'intérêt. C'est du jour le jour, quoi.
On continue la visite?
Allons-y.
Bonjour.
Bonjour, Anna.
Je peux vous demander ce que vous vendez?
Amadou Tombo. Nous vendons de l'électronique, des téléphones, des ordinateurs, avec des télévisions.
Et vous êtes à votre compte?
Oui, oui, je suis indépendant, oui.
Et vous vendez à peu près combien de marchandises, vous pensez, par semaine?
Bon, il y a des moments où on peut vendre 1500 pièces par semaine. La somme, souvent, on évite de le dire, parce que si c'est à Conakry. Donc,
c'est-à-dire?
C'est pas sûr, la sécurité, il faut qu'on se méfie un peu, quoi. C'est tout, vous comprenez le reste. Pour travailler à Conakry, il te faut 3 fonds. Il y a le premier fonds pour payer la marchandise, le second fonds pour mettre dans la boutique et le troisième fonds pour donner aux gens en crédit. Parce que les gens n'ont pas assez de moyens pour payer casse. Il faut que tu le fais un dépôt vente, sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Ici, ce n'est pas facile en fait.
Donc la plupart des gens qui viennent acheter un téléphone ici, vous leur vendez à crédit?
Oui, mais il y a certains qui payent aussi casse.
Comment vous faites pour leur faire un crédit? Comment ça fonctionne?
Vous savez, c'est un pays musulman, on est à 90% de musulmans. Donc souvent on a confiance entre nous. Donc quand tu vois ton parent, il vient, il n'a pas assez de moyens, il veut faire du commerce. Donc souvent, tu prends ce qu'il a, le reste après, il paye un peu. C'est comme ça se passe ici, quoi.
Merci beaucoup.
Merci, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous appelez?
Oh, je m'appelle Abdoulaye Diallo.
Et Abdoulaye, je crois que vous êtes ce qu'on appelle un collecteur.
Oui, je suis un collecteur de tontines. Oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire tontines. C'est un ensemble, un système qui est là, qu'on a mis en place pour permettre nous tous de faire un fonds d'ici ensemble qui a un taux d'intérêt de 0% quand même.
C'est une sorte d'épargne collective qui existe depuis vraiment longtemps, surtout dans les zones rurales.
Oui, oui, très longtemps. Ça permet maintenant de bien s'en sortir.
Alors justement, comment ça marche? Je vois que vous avez un cahier de compte.
Oui, c'est un cahier d'association qui est là organisé. Chaque personne paye, chaque 15 du mois, paye 1 million.
Ça, 1 million.
1 million, ça c'est équivalent à 100 euros.
Dans votre carnet, je vois que vous tenez à jour qui donne 1 million le 15 de chaque mois. Par exemple, on voit le 15 juin, le 15 juillet. Vous notez qui donne et qui va être bénéficiaire à la fin du mois.
Oui, le bénéficiaire en fin du mois, ça, on fait les tirages au sort avant maintenant de commencer. Les personnes maintenant récupèrent 15 millions. C'est une rotation. Chaque mois, c'est comme ça, ça passe.
Et ça se passe bien?
Ça passe très bien, vu que vraiment, oui, ça passe très bien. Ça les aide, ça nous aide. Ça lutte contre la pauvreté aussi.
Et justement, en quoi ça lutte contre la pauvreté?
Ça lutte contre la pauvreté, c'est le taux d'intérêt est 0%. Les frais de documents, comme je vois dans les comptes bancaires, là, des frais de dossiers, de systèmes, tout ça. Et puis les gens aussi qui font là, ils ont un peu peur d'aller vers dans des systèmes bancaires. Ceux qui sont là maintenant, c'est des classes moyennes. Ils n'ont pas tellement instruit, donc c'est très difficile d'avoir l'accès là-bas. Mais avec ça, c'est la confiance.
Et donc là, vous avez une communauté que de commerçants?
Que des commerçants, ouais, moi je gère que des commerçants.
C'est plutôt des femmes ou des hommes?
L'initiative est venue que des femmes d'abord. Ça leur permet d'avoir une bonne gestion.
Et donc vous, vous touchez rien en plus pour être collecteur?
Oui, pour le moment, je touche rien pour le collecteur quand même.
Et vous avez quel âge?
32 ans.
Est-ce que vous avez un compte en banque?
Oui, j'ai un compte en banque. J'ai demandé un prêt, on ne m'a pas accordé.
Vous aviez demandé un crédit pour votre boutique de téléphonie? Vous êtes dans le marché Medina, vous avez un petit stand à l'entrée?
C'est pour fructifier maintenant, avoir plus.
Pour avoir une plus grande boutique?
Ça, je ne vous passe pas. Et les banques, ils n'accordent pas les petits jeunes entrepreneurs et puis qui vont vers envie d'innover. Ça, au moins, il faut que je vous le dise. Donc, les garanties, à partir de 100 millions, ils demandent des garanties. Il faut des titres fonciers, il faut d'autres. Donc, ils trouvent ça très difficile à avoir un prêt quand même, ça c'est trop difficile. Tu sais, ils ont toujours dit nous sommes là à côté de vous, mais vraiment ils sont là à côté de ceux qui ont
des grosses fortunes.
7 milliards de voisins. Nous sommes ensemble et nous devons manger ensemble.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, reportage en Guinée-Conakry. L'épargne, le crédit et la banque. Et oui, nous sommes dans un pays où l'épargne ne prend que très rarement le chemin de la banque. On lui préfère l'épargne virtuelle dans son téléphone, des systèmes traditionnels aussi comme les tontines qui accordent aussi les prêts. Raphaël Constant, quelle est la stratégie, les politiques publiques en Guinée-Conakry pour une bancarisation du plus grand nombre ?
Alors fin 2018, l'État guinéen a créé la première banque nationale d'investissement, la BNIG, et sa mission est de permettre aux entrepreneurs guinéens d'obtenir des prêts à taux préférentiel, donc pas plus de 10%, pour des projets liés au secteur agroalimentaire et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il existe aussi la MUFA, la Mutuelle Financière des Femmes Africaines, pour l'autonomisation des femmes en leur donnant accès au crédit, et on peut également citer le programme Integra, en collaboration avec l'Union Européenne, qui appuie l'intégration socio-économique de plus de 15 000 jeunes en Guinée. Plusieurs objectifs, la préparation à la vie professionnelle, la création des emplois durables et le développement de l'entrepreneuriat en Guinée.
Alors pour les plus pauvres, notamment les femmes, l'accès au crédit, à un capital de départ pour entreprendre reste donc difficile, je crois que ça on l'a compris. Comment est-ce qu'on peut pérenniser une petite activité comme un commerce de rue ou un atelier quand on est une femme ?
J'ai assisté justement à une réunion bimensuelle de l'institution de microfinance sociale Wakili. En 2016, l'association française Entrepreneurs du Monde a mis en place un programme de terrain en Guinée pour accompagner les personnes vulnérables dans le développement de leur activité économique et pour offrir des services aux personnes exclues du système bancaire classique. Wakili accompagne donc plus de 4000 bénéficiaires à Conakry, à Bofa et à Koba. J'ai rencontré Prosper Soulé, responsable des opérations de Wakili à Conakry, et ce matin-là, une quinzaine de femmes sont réunies autour du thème « Réinvestir son épargne dans son activité génératrice de revenus ». Prosper, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on arrive ?
Là, nous venons à un lieu de réunion. Nous sommes à Serem, à Dabondi Serem. Les bénéficiaires ont le choix de trouver un endroit là où ils se sentent à l'aise. C'est nous-mêmes qui nous déplaçons pour venir vers eux, pour éviter qu'ils fassent des dépenses. Ils payent du transport pour aller.
Vous vous implantez dans les quartiers, voilà, en fait.
Nous restons dans les quartiers, nous restons à proximité, nous venons vers eux.
C'est gratuit d'intégrer Wakili ?
Oui, bien sûr. C'est gratuit parce que nous faisons du crédit sans caution solidaire et sans demander aucune garantie, ni physique, ni matérielle. Et voilà.
Donc, risqué ?
Oh, tout crédit est un risque, disons, en soi. Bon, mais les risques quand même sont minimisés parce que nous savons que les personnes que nous assistons sont des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Parfois, il y a quand même des difficultés, mais nous comprenons les difficultés. Souvent, ces difficultés, d'ailleurs, sont liées aux cas sociaux, les cas de décès, les cas de vol ou autre chose. Et même l'épargne chez nous est gratuite. Alors, on leur demande, pour les apprendre à épargner, un minimum de 5 000 francs à chaque réunion. Et le taux d'intérêt, voilà, est 2 % annuel.
Donc Prosper, on vient d'arriver dans une cour, il y a du linge qui sèche au soleil. Je vous suis alors.
D'accord, merci.
Bonjour.
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 Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Oui, ça va. Prenez place.
Merci.
Qu'est-ce que vous appelez le capital ?
Le capital, c'est la somme qu'on épargne en cas de besoin ou si on veut faire du commerce.
Le capital, c'est cet argent que tu mets de côté qui va t'aider en cas de besoin. Épargner, c'est important comme vous l'avez dit. C'est une somme qu'on garde en cas de difficulté. Cette somme peut devenir un fonds de commerce plus tard ou elle peut servir pour les besoins de la famille. Par exemple, tante Saran est partie en voyage en pensant qu'elle allait revenir saine et sauve. Mais elle a eu un accident. Si elle n'avait pas eu d'argent de côté, elle n'aurait jamais eu les soins nécessaires. Donc c'est important d'avoir un revenu. Tante Mariam, tu veux augmenter tes marchandises, mais tu n'as pas d'argent. Comment tu vas faire ?
J'irai voir un proche ou un voisin pour m'aider à trouver la somme pour améliorer mon commerce.
Diane, c'est la saison sèche. La période de vente d'huile et de riz est arrivée et tu as besoin d'argent pour développer ton commerce. Dis-nous ce que tu vas faire.
Actuellement, prendre du crédit auprès d'autres personnes, c'est difficile. Donc moi, j'irai à la banque pour demander un prêt qui m'aidera à développer mon commerce.
Moi, si j'avais des difficultés, j'irais voir mes collègues marchandes pour leur demander de m'aider à acheter des marchandises. Et une fois que je les aurais revendues, que j'aurais pris mon bénéfice, je les rembourserai.
Oui, et toi ?
Moi, si j'étais en difficulté, je pourrais revendre un de mes biens personnels pour avoir de l'argent.
Ça veut dire quoi, ça, quand vous frottez les mains ?
Ok, elle a donné la bonne réponse. C'est pourquoi j'ai dit à l'Assemblée de frotter pour elle. C'est une manière d'encourager les autres aussi de participer à la réunion.
Et c'était quoi la bonne réponse ?
La bonne réponse était que quand elle est en crise, si elle a un bien, elle peut faire sortir son bien, vendre pour développer son argent.
On l'a bien. Elle a donné la bonne réponse. Prendre du crédit chez les voisins, ça n'est pas très prudent. Le voisin peut raconter aux autres du quartier ce qui se passe entre vous. Et parfois, si tu ne le payes pas à temps, il peut te diffamer ou t'insulter, même si tu es plus âgé que lui. Si tu ne respectes pas le délai, même si tu es malade, c'est pas son problème. Il va crier sur toi. Donc, ça n'est pas la solution de faire du crédit auprès des voisins. Et si tu demandes un prêt à la banque et que tu n'arrives pas à le rembourser à temps, quelles seront les conséquences ?
Bangoura ?
Si tu prends l'argent à la banque et que tu rencontres des difficultés dans ton commerce, ça va être compliqué. La banque peut prendre un de tes biens personnels à la place de la somme que tu leur dois.
Bon, la solution c'est quoi alors ?
Si tu es commerçante, tu mets de l'argent de côté et à chaque fois, tu mets dans une caisse une partie de ce que tu gagnes, même si c'est juste 1 000 ou 2 000 francs. Et en cas d'urgence, tu peux ouvrir cette caisse et prendre la somme que tu as épargnée pour l'injecter dans ton fonds de commerce.
Voilà, c'est pourquoi il faut épargner l'argent, même ici auprès de Wakili. Certaines mettent de l'argent sans calculer si elles gagnent 50 000 francs ou 100 000 francs. Parfois, elles sont étonnées d'avoir réuni une grosse somme. Elles ne s'en sont pas rendues compte. Du coup, si tu épargnes de l'argent, tu n'as pas besoin de faire de prêt à Wakili ou chez les voisins ou faire la tontine. Parce que la tontine présente aussi des risques. Parfois, tu as besoin de la tontine, mais les autres membres n'ont pas déposé leur part. Parfois, on te fait traîner et finalement, tu ne peux pas bénéficier de toute la somme. Donc, avec ton propre système d'épargne, tu seras à l'abri de beaucoup de difficultés et la famille aussi. Si tu épargnes l'argent auprès de Wakili, c'est pour toi-même. Certaines ont commencé ici il y a très longtemps. Est-ce qu'une seule fois, on vous a dit ici à Wakili que vous n'alliez pas récupérer l'argent que vous avez épargné ? On ne l'a jamais refusé parce que cet argent que vous épargnez, c'est pour vous. L'objectif de Wakili, c'est de vous aider à être indépendante et libre. Parce que si vous faites régulièrement des prêts à la banque ou chez les voisins, vous n'allez pas vous en sortir.
L'épargne, le crédit et la banque. Reportage en Guinée-Conakry de Raphaël Constant sur RFI, 7 milliards de voisins. Raphaël, on l'a dit au début de l'émission, 23% seulement des Guinéens possèdent un compte en banque. Alors comment ça se passe ? On va quitter le monde des femmes. Comment ça se passe du côté des jeunes citadins éduqués, connectés ? Est-ce qu'ils sont aussi éloignés de la banque ?
Alors pour répondre à ça, Emmanuel, j'ai rencontré trois jeunes blogueurs guinéens, Mamadou Alpha Diallo, Ali Mousso et Abdoulaye Oumousso. Tous les trois sont détenteurs de comptes en banque, nécessaires selon pour recevoir leur salaire, demander un visa ou pour financer leurs études. Mais malgré ça, ils m'ont tous affirmé utiliser majoritairement Orange Money. Le service comptabilise 800 000 transactions par jour dans le pays et propose aussi bien du transfert d'argent à l'international que du paiement de factures ou dans les magasins. Il y a presque 3 millions de comptes Orange Money sur les 12 millions d'habitants.
Donc, il reste du chemin à parcourir avant de toucher le plus grand nombre. On écoute les jeunes.
Moi, je pense qu'actuellement, même les banques guinéennes, même si elles me proposaient des choses qui sont intéressantes et tout, que je ne les prendrais pas. Parce que dans ma tête, il n'y a pas cette confiance, en fait. Je me dis, surtout avec les crédits notamment, que voilà, ça ne va pas bien se terminer. Les taux vont être élevés à un moment donné, la façon. Tous les services bancaires, et même l'assurance, en fait. J'assure ma moto ou tout ce que j'ai. Bon, parce que c'est une obligation légale pour certaines. Mais dans le fond, je ne pense pas qu'un moment va arriver où ils vont m'aider. Les exemples que je vois, c'est que voilà, quand tu as des problèmes, il faudra que tu te débrouilles. Donc, je pense que les banques, la première chose qu'elles doivent faire, en tout cas moi personnellement à mon niveau, c'est d'abord faire en sorte que j'ai confiance un peu au système, que je ne les vois pas comme des gens qui, de toute façon, vont profiter, vont abuser de moi.
Et du coup, qu'est-ce que vous en attendez?
Je pense que les banques, comme en Guinée, moi, les produits que je vois, ce sont des choses qui sont la plupart du temps conçues pour des fonctionnaires qui ont un revenu fixe voilà, pendant ce mois. Ils savent de toute façon que l'État va virer cet argent. Bon, moi, je comprends de la réticence des banques aussi, parce que nous sommes dans une société quand même où il y a la pauvreté, où les revenus ne sont pas très élevés. Et donc, les banques, ce sont des gens avant tout qui cherchent de l'argent et qui veulent fructifier l'argent. Il ne faut pas s'attendre qu'ils jouent au bon samaritain, qu'ils distribuent de l'argent. Ça, je n'attends pas, mais je pense que c'est quand même possible, en travaillant plus, d'avoir des services vraiment innovants qui puissent répondre à nos besoins, qui puissent même nous inciter à consommer. Quand je vais parfois hors du pays, je vois des amis qui ont des iPhones, qui ont des ordinateurs qu'ils ont acquis et qui, voilà, notamment à travers la banque, et qui chaque mois payent un peu pour avoir. Je n'ai jamais eu un projet jusqu'à envisager la banque comme un moyen de financement. Pour moi, la banque, c'est juste pour aller déposer mon argent, garder, et voilà.
Vous êtes tous les trois jeunes, vous avez des comptes en banque. Est-ce que vous êtes moins méfiant que vos parents? Est-ce que vous êtes plus connecté aussi?
C'est vrai qu'on peut être moins méfiant que parce que déjà nous connaissons comment le circuit fonctionne et puis aujourd'hui les banques sont un moyen numérique qui fait qu'il y a actuellement un lien étroit entre les banques aussi avec ces différents comptes, notamment Orange Money et Mobile Money. Ça fait que quand nous étions assis ici tout à l'heure, j'en ai reçu, j'en ai fait.
Il y a un autre aspect, je pense aussi que nos parents qui sont plus méfiants, ils n'avaient pas autant d'argent. Parce qu'en fait, le franc guinéen, c'est très facile d'être millionnaire pour simplifier en franc guinéen. Tu fais la monnaie de 100 euros, pour donner un ordre d'idée, c'est que tu es millionnaire en franc guinéen parce que tu as 1 million. C'est beaucoup de billets de banque. Donc vouloir thésauriser ça à la maison, ça peut susciter des appétits et créer même des problèmes. Et donc aujourd'hui, on préfère avoir tout cet argent-là en banque, donc sous forme numéro, donc c'est des chiffres, que d'avoir ça sur soi ou d'avoir ça sur le mobile money là. Donc je pense aussi que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte dans ça. Maintenant, il y a d'autres considérations, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'agences bancaires, d'institutions bancaires partout, et qui créent donc des embouteillages au niveau des banques. Moi, en allant au travail, je vois certaines banques, là, certaines agences bancaires en bordure de route, à partir de 6 heures, sont en rang devant les guichets pour soit faire un dépôt ou faire un retrait. Donc tu peux banalement perdre 2 heures à 3 heures de ton temps à faire une simple opération de dépôt ou de retrait de quelques francs guinéens, de quelques billets de banque. Et ça, c'est vraiment très contraignant. C'est pourquoi aussi c'est un frein. La bancarisation des salaires des enseignants avait suscité beaucoup de problèmes ici, des colères, des prises de tête. Les enseignants ne voulaient pas parce que pour eux, c'était un calvaire d'aller faire le rang pour récupérer leur argent.
Alors du coup, est-ce que vous utilisez beaucoup, ou en tout cas plus, le moyen de paiement Orange Money?
Les petites dépenses qu'on fait, les petits cadeaux, parce qu'on est dans une société quand même où les gens demandent pas mal de petits services, des crédits téléphoniques que vous pouvez donc envoyer au village, moi je le fais de temps en temps, ou bien c'est le jour du marché hebdomadaire, est-ce que c'est voilà, les vendredis, les téléphones sonnent beaucoup à Conakry. Il y a un opérateur Orange qui a quand même, je crois, flairé ça. Ils ont mis donc des bonus en week-end Et donc, dès le vendredi, les gens commencent à appeler pour faire un petit transfert parce qu'avec ça, tu reçois pas mal de bonus.
Le service de paiement électronique, c'est plus adapté à la réalité des populations que les banques.
Alors, c'est clair. Ça, c'est, les gens ont généralement adhéré à ça. C'est simple aussi d'utilisation. C'est pas très compliqué. Et il y a également peut-être un aspect qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a beaucoup de coupures de route sur les trajets interurbains. Et depuis l'existence de ces systèmes-là, beaucoup de personnes ont arrêté de voyager avec des sommes d'argent. Ils les convertissent directement en Orange Money. Et même si on vous volait votre portable, et même si on écrasait la SIM, vous récupérez votre argent parce qu'il est virtuellement stocké quelque part.
En campagne, il y avait des chauffeurs qui vont. Les voyages hebdomadaires qu'il y a, on les remettait des petits colis, notamment de l'argent et autres, qu'ils amenaient aux familles au village, mais tous aujourd'hui refusent d'amener avec eux parce qu'ils se disent qu'il y a un moyen pour nous d'envoyer cet argent sans pour autant passer par eux.
Souvent les gens qui font Orange Money dans les localités rurales sont les personnes les plus populaires parce qu'ils sont connus de tous et voilà, tous les parents.
Ils se facturent, ils demandent encore plus que le montant que vous payez de la transaction en fait. Si vous devez payer 10 000 pour une transaction, ils peuvent demander 15 000 à la personne qui reçoit l'argent là-bas.
Exactement.
Et généralement quand les gens demandent de leur envoyer l'argent, quand tu envoies l'argent, ils te disent, ah, il ne faut pas oublier les frais. Hein.
Oui, ça c'est illégal, mais on est obligé parce qu'ils sont utiles.
Mais au-delà de cet aspect d'Orange Money, il y a un autre aspect aussi, ce transfert au niveau local où les gens sont à l'autre bout du monde. Ils ont un représentant là-bas sur lequel vous pouvez venir déposer une somme d'argent et puis la personne n'a qu'à donner votre nom et un code. Chacun fixe son prix par rapport à au moyen qu'il utilise, si c'est la moto qu'il utilise, mais si c'est vous-même qui vous déplacez pour aller à la boutique pour prendre votre argent avec la personne. C'est un paiement qui est en train de prendre un peu de l'ampleur, qui est en train un peu de bousculer l'affaire d'Orange Money, parce que d'autant plus que c'est comme si c'était un type de troc. Mais ça, c'est hors circuit, en fait. Ça, c'est carrément local et traditionnel, en fait.
Alors, que répond la banque face au système D, face au système digital pour gérer son épargne? Est-ce que le système bancaire prend en compte ces nouvelles réalités de terrain, Raphaël?
Alors Emmanuel, la plupart des banques sont dépassées par les nouveaux usages. Néanmoins, une banque sort du lot, Ecobank, qui est présente dans 33 pays et c'est la première banque de Guinée avec près d'un million d'utilisateurs de comptes digitaux. On écoute Souleymane Ba, directeur de la banque commerciale Ecobank Guinée.
Aujourd'hui, à travers votre téléphone mobile, vous pouvez ouvrir un compte à Ecobank de façon très simplifiée. Les comptes en banque tels que vous l'avez connu par le passé chez nous, c'est quelque chose qui n'est plus trop pertinent. Le compte en banque, c'est un numéro de téléphone. Vous avez votre numéro de téléphone tout de suite. Je vous ouvre tout de suite un compte à Ecobank et je vous fais tout de suite un virement bancaire. Et ce compte-là, vous avez accès à travers tous les 3000 points de vente où vous avez accès à votre argent à tout moment. Ce n'est plus le compte bancaire tel qu'on l'a connu par le passé. Pour nous, ce compte-là, c'est pour une certaine catégorie de la population qui a des moyens. Mais pour l'autre catégorie de la population, celle qui a besoin de l'inclusion financière dont vous parlez, c'est de ça exactement dont ils ont besoin. L'accès au crédit, par exemple, au niveau d'Ecobank, nous sommes en train de le simplifier. Bientôt, à travers votre téléphone mobile, vous avez droit à un crédit proportionnellement, bien sûr, à votre revenu bancable. Vous avez accès à ce crédit-là, vous seul, en manipulant votre téléphone. Il y a un montant qui est défini par catégorie d'utilisateurs.
Est-ce que vous demandez un minimum de solde pour ouvrir un compte? Est-ce que vous avez des frais d'ouverture? Est-ce que vous avez des frais de tenue de compte?
Les comptes dont je vous parle ici, c'est des comptes sans frais. Vous allez faire vos transactions, vous avez zéro frais à payer.
Et d'après vous, comment la banque pourrait se réinventer pour les populations les plus vulnérables?
Aujourd'hui, si vous partez même dans les villages les plus reculés du pays, vous avez accès à des gens qui utilisent WhatsApp, qui utilisent Facebook. Si quelqu'un peut utiliser WhatsApp et Facebook, ça veut dire qu'il peut utiliser une application bancaire. C'est donner la chance à ces gens-là et surtout les accompagner.
Ça veut dire que vous allez sur le terrain?
Nous avons des agents qui sont permanemment sur le terrain auprès de cette clientèle. Nous avons recruté aujourd'hui, c'est des centaines de jeunes qu'on appelle des agents de vente sur le terrain. Nous les accompagnons permanemment sur le terrain, nous sommes avec eux, nous les conseillons. S'ils ont besoin d'accompagnement sous forme de crédit, notamment les femmes sur le terrain aujourd'hui qui font des tontines, qui se débrouillent tant bien que mal pour avoir accès à un financement afin d'augmenter leur cash flow, aujourd'hui le rôle du banquier c'est de voir cela. On surveille de près comment le business est en train d'évoluer, comment il est en train d'avancer, afin de lui donner encore plus d'autocrédit. Nous les prenons comme des partenaires en fait.
Alors, Madanidia ne partage pas du tout le point de vue d'EcoBank. Ce spécialiste du secteur privé guinéen estime que les banques sont encore très loin des réalités économiques du pays.
Vous avez tout le système bancaire guinéen est composé de banques qui sont des banques commerciales étrangères. Il n'y a aucune banque ici qui fait du développement local. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que les Guinéens continuent à aller déposer leur argent dans des banques qui ne leur font pas réellement de crédit. Et quand ils vous font un crédit, imaginez-vous que les crédits au secteur privé, je crois que ça ne dépasse même pas les 10% du PIB aujourd'hui.
Et les taux surtout sont élevés ?
C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez des taux qui sont aux alentours de entre 15 et 18%. Et comment vous pouvez développer une activité avec 15, 18% de... c'est pas possible. Donc les gens ils préfèrent trouver des solutions alternatives, qui sont souvent justement des solutions informelles, comme on dit, dans le sens où c'est de l'argent qui va être collecté justement à Madina, auprès d'un commerçant, qui va prendre le risque de prêter de l'argent parce que c'est juste pour aller sortir les containers, parce qu'ils ont pris, ils avaient l'argent pour importer les containers, le container est au port, maintenant ils n'ont pas l'argent pour sortir le container. Donc eux, ils prêtent l'argent pour sortir le container, mais en même temps, ils prennent un pourcentage sur la vente du container. Donc, comme on dit en Guinée, chacun profite du problème de l'autre pour régler son propre problème. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Forcément, ça continue. Les banques ne comprennent pas aujourd'hui qu'elles doivent être une solution au problème de crédit de l'endroit, du territoire dans lequel elles sont. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a standardisé les crédits et on veut que les gens rentrent dans le standard qu'ils ont mis en place. Mais ça ne marche pas comme ça. Au contraire, ce qu'ils devraient faire justement, c'est d'avoir des équipes de créativité qui se promèneraient dans la cité, qui découvriraient les vrais problèmes qu'il y a au niveau de l'argent, quels sont les crédits qu'on peut faire. Mais je peux vous garantir qu'il y a des opérations de crédit qu'ils pourraient faire ici, s'ils étaient un peu audacieux, mais ils gagneraient 10 fois plus d'argent qu'ils n'en gagnent aujourd'hui. Comme je vous dis, regardez l'exemple que je vous ai donné pour le conteneur. Mais attendez, si quelqu'un vient vous montrer qu'il a tous les documents, il a un conteneur au port, il l'a payé pour le faire rentrer, il lui veut juste le crédit pour une journée pour aller récupérer son conteneur et le faire sortir. Si vous lui faites du crédit, vous gagnez de l'argent. Et les opportunités comme ça, mais il y en a plein. Et les banques surtout, qui n'ont pas encore trouvé des niches pour pouvoir gagner de l'argent par rapport à la réalité du marché guinéen. L'activité la plus simple dans un pays, c'est le commerce.
Pour vous, quelles réformes structurelles sont indispensables ?
La première réforme structurelle qu'il faudrait faire en Guinée, je vous assure, c'est le respect de la loi par les gouvernants. Parce que si on avait une bonne gouvernance en Guinée, au moins au niveau monétaire, on baisserait déjà l'inflation. C'est-à-dire qu'on ne ferait aucune opération, ni au niveau de la Banque centrale, ni au niveau du Trésor, pour qu'il y ait une inflation sur le franc guinéen. Ça serait un boom pour l'économie guinéenne, rien que ça. On n'a pas une administration de développement, on a une administration de prédateurs. Et tant qu'on aura une administration de prédateurs, c'est-à-dire quand un problème leur est posé, la question c'est qu'est-ce que je vais gagner dans ce problème, on ne réglera jamais les problèmes de la Guinée.
Milliards de voisins, c'était un reportage de Raphaël Constant en Guinée-Conakry à la réalisation Romain Dubrac. Bien sûr, l'émission est à réécouter en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes de téléchargement. On se retrouve lundi pour parler des États-Unis et de la jeune génération d'activistes américains à quelques semaines de l'élection présidentielle.